tartine que vous allez suivre est une rediffusion.
Les archives d'Afrique, Alain Foucault.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Cette révolution a apporté la liberté au peuple libyen, mais elle n'est pas seulement nationaliste, elle est aussi pan-arabe, en œuvrant pour l'unité arabe et en contribuant à sa prospérité. De plus, elle est mondiale et ne se referme pas sur elle-même.
Sept ans après avoir renversé, avec l'aide d'une douzaine d'officiers, le roi Idriss Ier, Muammar Kadhafi, qui s'est débarrassé de quelques-uns de ses complices, tient désormais fermement en main la barre du navire Libye. Fort de son succès des premières années contre les mastodontes du pétrole qui tenaient, qui faisaient la loi à la fois dans son pays et dans le monde, qui l'a fait plier en faisant de son or noir une arme, le bouillant colonel, riche de cette manne, a considérablement transformé le visage de son pays. Malgré ses coups de folie, malgré ses positions anti-impérialistes, malgré sa révolution culturelle avec son corollaire de nationalisation des firmes pétrolières anglo-britanniques, il passe pour un bon gestionnaire, pour celui qui a transformé et apporté un meilleur niveau de vie aux Libyens. Mais de plus en plus, son activisme, le durcissement de son régime, qui entre dans la seconde phase de sa révolution, inquiète. Notamment la chasse aux opposants qui vivent à l'étranger. Son déploiement et son soutien aux différents mouvements nationalistes suscitent également beaucoup d'inquiétudes, notamment dans les chancelleries occidentales.
Premièrement, je ne suis pas contre les Juifs ni contre Béni Israël. Les fils d'Israël.
Béni Israël.
Au contraire,
Jacob.
Les Béni Israël, c'est-à-dire les fils de Jacob. Sont des sémites, ce sont nos cousins, les cousins des Arabes. Les Arabes et les Israéliens sont cousins du point de vue consanguin.
En plus,
le judaïsme, nous le reconnaissons, il a une position privilégiée dans le Coran. Comme par exemple, il a la même situation que la position de Jésus, de Marie, de... Je ne serai pas musulman si je ne reconnais pas le caractère prophétique de Moïse, de Jésus, de Jacob, des fils de Jacob. On ne peut pas être musulman sans reconnaître. Nous estimons, nous respectons le judaïsme et le christianisme au même titre que nous respectons l'islam. Mais moi je suis contre le phénomène colonialiste en Palestine. Je suis contre le peuplement juif en Palestine. En disant le peuplement juif, c'est-à-dire les juifs allemands, les juifs anglais, les juifs italiens, les juifs français, russes.
Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Muammar Kadhafi.
Nous sommes des alliés naturels les uns aux autres. J'insiste que si l'Algérie était exposée, la révolution algérienne était exposée
à
n'importe quel danger, nous la défendrons jusqu'au bout. Si la révolution libyenne était exposée au danger, de même l'Algérie défendra cette révolution jusqu'au bout. C'est cette situation actuelle est un pas vers l'unité.
L'unité arabe. Depuis son accession au pouvoir, Muammar Kadhafi ne parvient pas à la réaliser. Depuis la mort de Gamal Abdel Nasser, il ne parvient toujours pas à rallier les autres nations arabes à son idée de fusion. La Tunisie, après avoir signé le document qui les liait, s'est aussitôt rétractée. La brouille avec le Soudan reste vivace. Le roi Hassan II du Maroc ne se sent pas proche de ce révolutionnaire qui a chassé la monarchie. L'Algérie des Boumédiens ne lui accorde qu'une confiance moyenne. Mais cela ne suffit pas pour émousser la détermination du colonel pour qui l'unité est vitale pour l'ensemble du peuple arabe et il mise désormais sur le soulèvement, la mobilisation du peuple lui-même pour réclamer cette fusion.
Mais par la voie de la révolution populaire à l'intérieur de chaque pays pris à part. C'est ce qui va se passer pour qu'on aboutisse à l'unité arabe. Actuellement, je ne suis pas président, je suis secrétaire d'un congrès populaire. Réellement, c'est vrai, le gouvernement
s'estompe.
Il y aura un congrès populaire qui aura un secrétariat et un comité populaire qui ressemble qui prendront la place du gouvernement local. Et de l'ensemble de ces petites structures locales se formera l'autorité générale au niveau du pays. Et ainsi de suite, chaque congrès, c'est-à-dire au niveau de chaque circonscription, aura un congrès, un secret et un comité populaire. Il n'y a plus de président. Le président, c'est le peuple.
8 ans après l'arrivée du colonel Kadhafi au pouvoir, la Libye vit au rythme de son modèle socialiste. On parle désormais de Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste. Kadhafi en est le guide. Il abandonne toute fonction officielle comme ses amis du CCR, le Conseil du Commandement de la Révolution. Naturellement, il conserve les pleins pouvoirs puisqu'il est le guide. Le peuple est, selon sa formule, l'unique détenteur du pouvoir qu'il exerce grâce aux syndicats et aux comités de base populaire. C'est la période des slogans et de tous les abus contre la société bourgeoise et les intellectuels, des exactions contre les commerçants, les hommes d'affaires et les propriétaires, puisque désormais, le logement appartient à celui qui l'occupe. On ne peut plus être propriétaire de 2 ou plusieurs maisons. En réalité, si quelqu'un occupe une maison et que son propriétaire en possède déjà une, cette maison lui appartient de droit. Une mesure populiste qui naturellement satisfait les plus démunis, le grand nombre, mais pousse les plus nantis à s'en aller. Surtout qu'il va aussi procéder à la suppression des commerces, à la nationalisation des usines, sans compensation financière. Ils sont de plus en plus nombreux à prendre le chemin de l'exil. Le mécontentement social n'est pas pour tout de suite. C'est également la période des grosses tensions avec les chefs religieux, les oulémas qui sont présentés comme des notables qui utilisent les mosquées à des fins très personnelles. Une humiliation de plus après l'autorisation donnée aux femmes de travailler et à qui Kadhafi accorde même des postes de responsabilité. Mieux, il les incorpore dans l'armée. Ce sont elles, les Amazones, ces belles femmes au physique généreux, qui vont prendre en charge sa sécurité.
1979, deuxième choc pétrolier. La révolution islamique en Iran fait de nouveau flamber les prix. Un an plus tard, le baril de pétrole atteint les $40, du jamais vu. L'Occident s'alarme.
La crise que nous traversons est la plus sérieuse, la plus durable, la plus éprouvante que le monde ait connue depuis les années 30.
Ce nouveau choc pétrolier, parti des tensions au Proche-Orient et notamment de la chute du Shah d'Iran, va connaître un prodigieux développement avec l'entrée des pays producteurs de pétrole dans la danse. Afin de se prémunir contre d'éventuels troubles, les compagnies pétrolières des pays consommateurs accroissent leurs demandes auprès des pays producteurs afin de constituer des stocks. En même temps que la demande est à la hausse, l'Arabie Saoudite décide de diminuer sa production de 1 million de barils par jour afin de réduire l'offre. C'est le point de départ du choc pétrolier. La dégradation des relations entre l'Iran et l'Irak débouche sur une guerre de 1980 à 1988. L'Occident, grand consommateur d'énergie, est pris à la gorge. Le Japon est le pays le plus touché. Mais les États-Unis et l'Europe, qui ne sont pas encore remis du choc pétrolier de 1973, ne sont absolument pas épargnés. On essaie de s'organiser et certains, comme le premier ministre Raymond Barre, tentent de minimiser tout en recommandant la vigilance.
Ces événements, bien sûr, ne sont pas sans répercussions sur nos propres préoccupations. Ainsi, peut-être aurions-nous naguère moins été attirés par cette nouvelle découverte de pétrole en mer du Nord par les compagnies françaises Total et Elf Aquitaine, mais dans le secteur britannique. André Giraud, de son côté, invite les Français à ne pas utiliser leurs radiateurs électriques d'appoint aux heures de pointe. Et le Premier ministre prend bien évidemment en compte toutes ces données quand il change un peu le langage par rapport au désastre évoqué il y a 15 jours. Aujourd'hui, devant les sénateurs, il a brossé un tableau, disons, plutôt optimiste de la conjoncture économique.
En ce qui concerne la situation de notre économie, je dirais ceci. Premièrement, depuis la fin de 1978, la France a absorbé les conséquences du premier choc pétrolier, c'est-à-dire le choc pétrolier de 73-74. Deuxièmement, la France est à l'heure actuelle en train d'absorber mieux que nous le pensions le deuxième choc pétrolier, c'est-à-dire le choc du mois de juillet dernier, et cela pour deux raisons essentielles. La stabilité de sa monnaie, la productivité de ses entreprises. Troisièmement, la France est aujourd'hui mieux armée pour faire face au choc futur, car je ne me dissimule pas que nous allons au-devant de chocs futurs. Et la politique que nous devons mener est une politique de vigilance, je dirais une politique tous azimuts par rapport aux éventualités qui peuvent brusquement surgir. Ce n'est pas facile, mais l'outil, c'est-à-dire la capacité de l'économie française, est à l'heure actuelle une capacité à laquelle nous pouvons faire confiance.
Il faut rassurer les populations, même si on leur demande de faire des économies dans l'utilisation de l'énergie et que les files devant les stations-service ne cessent de s'allonger. Une chose est réelle, l'Occident est à nouveau sous le choc et dénonce l'attitude des producteurs de pétrole qui font flamber les prix. La réaction est même relayée dans les chansons et aux enfants. Les méchants producteurs de pétrole essaieraient d'asphyxier le monde.
Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. On a le bon vin, on a le bon pain, etc. Ils ont le pétrole, mais c'est tout. On a les cailloux, on a les bijoux, on a les bignoux.
Cette implication des hommes de culture et des chansonniers dans le champ économico-politique, avec parfois des paroles à la limite de l'acceptable, illustre bien la gravité de la situation dans cette période du choc pétrolier. Avec d'un côté les méchants producteurs de pétrole qui prennent en otage le monde, et de l'autre, les méchants impérialistes qui se mêlent de tout et essaient de régenter le monde. Malgré les cris, les chansons, les caricatures et les négociations, l'attitude des pays producteurs de pétrole n'évolue pas dans le bon sens. C'est d'ailleurs dans ces circonstances que Muammar Kadhafi, au lieu de soulager les Occidentaux, décide à son tour de baisser sa production pétrolière de 18%. La mesure est d'autant plus inquiétante que l'Algérie et l'Iran, avec son nouvel homme fort, l'Ayatollah Khomeini, ont réduit eux aussi leur production, diminuant ainsi de 300 000 barils par jour l'offre mondiale.
Troisième partie de notre journal maintenant, je crois qu'il faudra en prendre l'habitude car ce problème prend des proportions d'importance. L'énergie, avec ce soir ce qui se passe aux États-Unis. Le président Carter devait annoncer la nuit dernière des mesures essentielles. Il a différé l'annonce de ces mesures, les trouvant semble-t-il trop timides, mais il vient de faire savoir tout à l'heure qu'il allait faire une déclaration importante très prochainement. Je crois qu'on peut comprendre cette valse hésitation quand on a vu le sujet que je vous propose maintenant. Il est signé d'Edouard Lord et réalisé outre-Atlantique, l'attitude des Américains face aux restrictions en matière d'énergie.
Il y a dans les statistiques qui sont publiées aujourd'hui aux États-Unis un certain nombre de chiffres qui peuvent paraître surprenants. À savoir par exemple que pour la première fois depuis qu'elles existent, les compagnies de chemin de fer font des bénéfices. À savoir qu'il est impossible de trouver une place dans les Greyhounds, ces autocars qui sillonnent les routes américaines 24 heures sur 24. Impossible de trouver une place d'avion. Tout cela bien entendu à cause du manque d'essence. Les Américains ne parlent que de cela, les Américains ne pensent qu'à cela. Le président Carter, condamné par les sondages à devenir, semble-t-il, le président des États-Unis le moins populaire depuis Truman, va proposer au Congrès un programme de rationnement qui, en fait, ne devrait tromper personne. Il s'agit de préparer les Américains à une rentrée, à un hiver surtout, pour le moins difficile.
Nous sommes très inquiets pour l'hiver prochain. Les stocks de fuel domestique sont très bas dans tout le pays comme dans cette région. Notre État consomme 10% de tout le fuel du pays. Ce qui nous préoccupe, c'est 1. D'obtenir un ravitaillement suffisant. 2. De pouvoir le vendre au nouveau prix de l'OPEP. Les gens pourront-ils payer si cher? Nous sommes très inquiets, trois maisons sur quatre sont chauffées au fuel.
Gaddafi, dans cette situation où les nations occidentales s'inquiètent à l'approche de l'hiver et où le rationnement en carburant devient obligatoire, pousse un peu plus l'étau en augmentant le prix de son pétrole, au moment même où le président Jimmy Carter supplie les pays de l'OPEP de stabiliser les tarifs.
Nous sommes prêts si les matières que nous achetons sont gelées, les matières que nous achetons avec le prix du pétrole sont gelées, nous sommes prêts à geler notre prix. Comment vous demandez à une partie de geler ses prix alors que l'autre partie augmente sans arrêt les prix? On se met tous d'accord pour geler nos prix une fois pour toutes.
Avec cette position, le prix du pétrole libyen dépasse désormais largement celui de l'Algérie et du Nigeria qu'on considère comme les durs de l'OPEP, l'Organisation des producteurs et exportateurs de pétrole. Les États-Unis sont en crise ouverte. Gaddafi jubile et pousse l'humiliation plus en avant en menaçant d'annuler les contrats de vente aux majors s'ils n'investissent pas davantage. On est au bord de la guerre lorsqu'en décembre de la même année 1979, l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Tripoli est mise à sac et le bâtiment incendié. C'est la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Washington réclame des sanctions contre Gaddafi. Des menaces qui visiblement ne semblent pas vraiment inquiéter le guide de la Jamaïria libyenne qui continue de s'activer sur le plan international en soutenant militairement de nombreux mouvements de rébellion, notamment ceux qui se battent militairement contre Israël pour la cause palestinienne.
Je considère qu'il n'y a pas de détente dans la politique internationale. Je ne vois pas de détente. Sauf si cette détente est sur le compte des peuples du tiers-monde, de la liberté des petits peuples qui luttent pour vivre libres. Mais si les grandes puissances s'arrangent pour maintenir un armistice, et que ces guerres sont transportés au tiers-monde, ceci n'est pas de la détente.
Depuis la décision d'Anwar el-Sadat, le raïs égyptien, d'engager des négociations avec Israël, le partenaire avec qui il souhaitait la fusion, le frère arabe qui a remplacé Nasser, est devenu un traître à la cause.
Une paix de papier, mais une paix quand même. L'Égypte et Israël ont enfin signé le traité après 500 jours de négociations. Sur le terrain, rien n'est réglé. Les durs du camp arabe préparent la riposte.
Nous avons déjà remis toute la responsabilité de la question palestinienne entre les mains de l'Organisation des Nations Unies. Et dès cet instant, la Jordanie n'a plus rien à voir avec le problème palestinien.
Les ministres des Affaires étrangères et des Finances du monde arabe se retrouvent à Bagdad pour punir Sadat, comme les chefs d'État réunis au mois de novembre l'avaient décidé. Mais dans ce monde arabe, on n'est pas d'accord sur le degré, sur l'intensité de la punition. Car qui peut nier que le traité, laborieusement mis au point par le président des États-Unis, malgré sa portée relative, trouble les esprits. Alors il devrait se constituer un bloc dur à partir de l'union entre la Syrie et l'Irak, qui récupérerait une fois de plus et une fois pour toutes peut-être les Palestiniens, et qui essaierait de mener ce combat, d'appeler au renversement de Sadat, de distinguer entre peuple égyptien et régime du Caire, sans compter que dans les rues, on peut s'attendre aussi à une recrudescence du combat des organisations palestiniennes. Hier soir déjà, une grenade a explosé à Jérusalem.
Muammar Kadhafi fait partie de ceux qui ont décidé de punir le raïs égyptien. Il a choisi de poursuivre son combat contre Israël en armant les mouvements armés installés pour beaucoup au Liban. Le terrorisme fait partie de sa stratégie, pas seulement pour combattre l'État hébreu, mais également pour régler leur compte à ses adversaires politiques disséminés dans le monde qui commencent par endroits à avoir l'oreille des grandes puissances. Rendez-vous dans une dizaine de minutes pour évoquer ce tournant décisif dans sa politique auquel s'ajoute la question tchadienne. Suite de la série d'archives d'Afrique spéciale Muammar Kadhafi, juste après le journal sur Radio France Internationale.
Que vous allez suivre est une rediffusion.
Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Moi, je considère que le vrai terrorisme, c'est le terrorisme des pays colonialistes qui répriment les petits pays. C'est ceux-là qui possèdent les bombes atomiques qui terrorisent le monde.
Après une décennie au pouvoir, Muammar Kadhafi, qui en raison de ses positions anti-impérialistes, mais surtout anti-américaines, notamment lors des crises pétrolières de 73 et 79, n'a pas calmé ses ardeurs, est dans le collimateur de Washington, qui n'apprécie pas beaucoup le soutien qu'il apporte à la fois au mouvement de lutte contre Israël, mais également aux terroristes. Suite de notre série d'archives d'Afrique, spéciale Muammar Kadhafi. Après la signature des accords de paix entre l'Égypte et Israël, Muammar Kadhafi, comme de nombreux dirigeants arabes, perçoit le raïs Sadat comme le traître. Et encore une fois, le guide libyen ne fait pas mystère de sa position.
Il n'existe aucune solution diplomatique. Qui est-ce qui nous propose une solution diplomatique? Est-ce que cela veut dire que les Palestiniens rentreront chez eux et les Israéliens quitteraient ce territoire occupé par la force sans guerre? Eh bien, nous sommes d'accord. Mais cette hypothèse est complètement sans fondement. Les Israéliens continuent à s'implanter dans les territoires occupés, dans la bande de Gaza.
Vous ne croyez pas à la diplomatie des petits pas?
Non. Devant l'intransigeance israélienne, il n'y a pas de solution diplomatique. Ils refusent systématiquement toutes les résolutions émanant des Nations Unies. C'est impossible.
Alors, pour lui, la solution, c'est la violence qui passe très souvent par l'armement de quelques mouvements et groupes terroristes.
Lorsque l'on parle de la Libye à l'extérieur, c'est un pays qui alimente le terrorisme, dit-on. C'est un pays qui fournit des armes à Carlos. Alors, j'aimerais que vous vous expliquiez là-dessus, parce que c'est la seule chose que les gens retiennent lorsque l'on parle de la Libye. Comment vous expliquez-vous cette image de marque?
C'est de la propagande sioniste et américaine, et j'espère que nos amis européens ne vont pas s'amuser à répéter cette propagande. Vous connaissez ce pays. Toutes les sociétés qui nous aident à assurer la phase de transition dans notre société sont des sociétés occidentales. Pour la plupart, il existe des milliers d'Européens qui vivent sur notre territoire et vous pouvez écouter leurs témoignages. Même vos gouvernements connaissent cette vérité. Les peuples savent que le terrorisme international est opéré par les Américains, les flottes américaines, la famine dans le monde, le déploiement des missiles. Voilà le terrorisme, le véritable qu'il faut combattre. Si défendre la liberté veut dire que nous sommes terroristes, eh bien, nous le sommes.
En réalité, lorsque l'on parle de terrorisme à Muammar Kadhafi, il refuse la terminologie occidentale. Évoque l'histoire.
Les styles suivis, appliqués par les Palestiniens, ça les regarde à eux, c'est à eux de les définir. Mais nous, on est avec la cause, avec le problème fondamental, si ce problème est juste. Quant aux agissements, les styles, les moyens de lutte, ça, chacun est responsable. C'est ceux qui les adoptent qui sont responsables de ces méthodes. Moi, je considère que le vrai terrorisme, c'est le terrorisme des pays colonialistes qui répriment les petits pays, les petits peuples. C'est ceux-là qui possèdent les bombes atomiques qui terrorisent le monde. Puis le terrorisme. Le terrorisme n'est pas nouveau, n'est pas un phénomène nouveau dans le monde, quoique maintenant il ait pris l'aspect de phénomène individuel. Depuis la fin du 18e, début du 19e siècle, les Américains menaient le terrorisme dans la mer Méditerranée. L'Amérique a essayé de nous agresser et de nous terroriser avec sa flotte. Et une guerre s'est déroulée entre nous et l'Amérique depuis 1803 jusqu'à 1805. Le terrorisme américain a été battu d'ailleurs le 11 juin 1805. À la fin d'une bataille navale décisive devant la ville de Derna, la ville libyenne de Derna. Et je considère réellement que c'est les États-Unis qui sont l'état du terrorisme dans le monde. Mais parce qu'ils sont forts, la voix de ceux qui l'accusent justement de terrorisme n'est pas entendue.
Une position qui contribue à tendre encore un peu plus ses relations avec Washington, qui de plus en plus pense sérieusement à se débarrasser de ce personnage plutôt insolent. Mais il faut beaucoup plus pour le calmer. Octobre 1981, Le Caire. Le président Sadat préside le défilé militaire qui commémore chaque année la victoire d'octobre 1973. Ce jour-là, malgré l'insistance de sa femme Jeanne, il n'a pas accepté de porter son gilet pare-balles dont il ne se séparait que très peu depuis quelque temps. Un peu comme une résignation ou un sacrifice. Le défilé se déroule pourtant normalement. Puis tout d'un coup, un camion militaire s'immobilise devant la tribune d'honneur où est installé le président Anwar El Sadat et les officiels. Quatre militaires en surgissent et déchargent leurs armes automatiques en visant particulièrement le chef de l'État. Les médias du monde le vivent presque en direct.
Tout se passe bien et puis tout d'un coup, c'est l'attentat. Le speaker fait son annonce. Attention, c'est l'attaque. Écoutez bien. De stupeur, les gardes du président Sadat réagissent. La fusillade s'engage à coups de mitraillettes et de fusils automatiques. Le chef de l'État égyptien est emmené par hélicoptère vers un hôpital du Caire. Dans la foule, c'est la panique. Des camions de 30 tonnes transportant les missiles antiaériens n'hésitent pas à manœuvrer sans tenir compte des gens affolés. Plusieurs personnes sont écrasées. Des enfants sont également piétinés. « Oh les traîtres !» s'écrit le speaker de Radio Le Caire. « Vive l'Égypte !» lance quelqu'un d'autre. Voici le passage de la chasse égyptienne qui ne se doute de rien. Le speaker de Radio Le Caire est véritablement dépassé par les événements. Il annonce qu'il va rendre l'antenne à ses studios. De la musique légère est diffusée.
Touché à la tempe, à la poitrine, au cou, à la jambe et au bras, Anwar El Sadat tombe. Il va mourir quelque temps après. Dans l'attentat, 5 autres personnalités sont aussi tuées. Par miracle, le vice-président Hosni Moubarak, pourtant assis à la droite du Raïs, s'en sort indemne, avec une seule blessure au bras. Les assassins d'Anwar El Sadat sont des islamistes du djihad conduits par le lieutenant Khaled El Istanbouli. Et Kadhafi de dire, je cite, « Nous mettons quiconque au défi depuis aujourd'hui 6 octobre de suivre cette voie et d'essayer d'aller prier à Jérusalem sous le drapeau israélien. La mort sanctionnera désormais quiconque tentera de trahir. » Fin de citation.
La politique de Sadat, le régime de Sadat, c'est bien terminé. Je pense et j'espère que maintenant il y aura une autre Égypte. C'est la preuve que ceux qui choisissent le camp des États-Unis sont toujours des perdants. Maintenant, les Arabes vont décider eux-mêmes ce qu'ils veulent faire. Et le peuple égyptien a décidé de se débarrasser de Sadat et il l'a fait. Maintenant, les accords de Camp David sont terminés. Les accords entre Égyptiens et Israéliens, l'installation des bases américaines, les facilités données aux Américains par l'Égypte et le Soudan, tout cela s'est terminé, puisque Sadat est mort. Le journaliste, mais beaucoup de gens disent et pensent que Sadat était le symbole de la paix au Proche-Orient. Vous êtes d'accord? Si c'était vrai, pourquoi l'aurait-on tué?
Depuis 1972, nous qui au début avons créé le Front du Polisario, nous l'avons armé. Nous l'avons rendu ainsi capable d'expulser le colonialisme espagnol du Sahara. Nous considérons, nous estimons que notre devoir pan-national, pan-arabe, vis-à-vis de cette partie du territoire, s'est terminé par la libération du Sahara. Nous estimons qu'actuellement ce problème est un problème arabe, parce qu'il y a une guerre arabo-arabe. Nous sommes contre cette guerre fratricide. Nous voulons que la volonté des gens du Sahara soit respectée. Actuellement, ils sont traités comme un troupeau de moutons par le Maroc et la Mauritanie. Jusqu'à aujourd'hui, la lutte continue. Ceci prouve que les gens du Sahara, qui habitent au Sahara, ne sont ni Marocains ni Mauritaniens. Je suis toujours surpris qu'un État comme la France, qui a bâti sa république et sa révolution sur le principe de la liberté et de l'égalité, se permette elle-même, la France se permette d'être impliquée dans ce problème. C'est-à-dire le problème de l'oppression d'un peuple. Et son annexion par la force, par la Mauritanie ou par le Maroc.
Si les projets de fusion dont rêvait le guide à son accession au pouvoir en 1969 ont connu de mauvaises fortunes, si désormais il est contraint de se résigner au moins momentanément pour ce qui est des nations du Maghreb, et s'il s'emploie plutôt à jouer les troubles faits en soutenant par exemple le Polisario dans la crise du Sahara occidental contre le Maroc et la Mauritanie, il n'a pas pour autant renoncé à un autre territoire. Subsaharien celui-là. Le Tchad. Il faut dire que ce territoire d'un 1 284 000 kilomètres carrés, qu'il considère comme une pure création française, visant à unifier en un seul espace stratégique l'Algérie, l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale centrale, occupe une place tout à fait à part dans son dispositif. Au-delà de la question stratégique, il y a au Tchad plusieurs tribus libyennes qui y ont émigré depuis la Première Guerre mondiale, notamment ceux du clan Al-Ghous, qui sont ses cousins les plus proches. On compte également plusieurs tribus installées au Tchad et en Libye, comme les Toubou, tribu à laquelle appartient Nguni Wédé. Sur le plan stratégique, les parties nord et nord-est du territoire sont perçues par le guide comme une zone de sécurité de la Libye. C'est pourquoi Kadhafi va s'appuyer sur d'anciennes revendications ottomanes et italiennes sur l'interland tripolitain pour revendiquer cet espace. Pas question d'avoir N'Djamena la capitale, un président qui ne lui soit pas acquis. Il ne peut envisager cette solution qui pourrait le fragiliser vis-à-vis de l'Égypte, voire d'Israël. C'est ce qui va expliquer sa propension à déstabiliser le régime tchadien dès son accession au pouvoir. Le président Garta Tombalbaye va en être la première victime. En 1978, Kadhafi va envoyer des troupes libyennes au Tchad pour soutenir les forces du Frolinat, le Front de Libération Nationale dirigé par Nguni Wédé contre son rival Hissène Habré, le premier ministre à la tête des forces armées nationales, les FAN.
Le cinquième de la population libyenne vit au Tchad. Ils vivent dans des endroits où la guerre se déroule actuellement. L'Algérie a plus d'un million de citoyens algériens qui vivent en France, dont certains sont tués et assassinés en France. Et ainsi de suite, chaque État a des citoyens qui vivent au sein d'autres pays. Alors la défense de ces citoyens par la force armée qui intervient de la part de leur propre État, c'est un précédent très dangereux. Dans ce cas-là, nous allons déboucher sur le fait que chaque État va être obligé d'expulser les citoyens de l'autre État et chacun vivra seul. Et alors, dans ce cas-là, les pays devront fermer leurs ambassades, retirer leurs diplomates. Et ceci est une logique très dangereuse.
La réaction de la France est immédiate. L'aviation française pilonne des éléments libyens. Kadhafi promet l'enfer. À Paris.
Je suis sûr que la politique de la France en Afrique va mener à la destruction des intérêts de la France en Afrique.
Cette menace ne suffit pas à dissuader Paris, qui a elle aussi ses intérêts dans ses territoires stratégiques où elle possède déjà des bases militaires. Les mois et les années qui vont suivre vont être particulièrement chauds dans cet espace sahélien. Kadhafi est décidé. Et sa colère n'a désormais plus de frontières. Ses méthodes aussi ne sont plus conventionnelles, comme nous allons le voir la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique qui lui est consacrée. Un Gaddafi qui, en ses débuts d'année 1980, connaît lui aussi quelques difficultés financières. La faille dont rêvaient les Américains. Surtout qu'à Washington, un ancien acteur de série B, un cowboy, s'installe à la Maison Blanche, Ronald Reagan. Et il n'est pas certain qu'il ait la même patience que Jimmy Carter devant l'arrogance du guide. Nous en parlerons, c'est sûr, la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également continuer de réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur RFI.
Baba, on a de la baby, Hamad, lady, lady. Hamadi, Ani, Quere, Galle Baba, on a de la baby, Hamad, lady, lady. Hamadi, Jolle, la Ponatati, Madi, Hamad, lady, lady.